qui était très dur, c'était de trouver un équilibre entre le bruit et l'information. On lit trop de bibliothèques de forme, trop de forme à la bibliothèque, c'est pas assez en fin de compte. Voilà, suite à ça, personne ne peut atteindre de meilleurs scores et on fonctionne à partir du logiciel Define Reader 9, dans sa première version. Faute de mieux.
Moi, je pense, je ne sais pas si il y en a qui sont intéressés par cette opération. Donc, moi, j'ai quand même une expérience de passage d'un texte imprimé à un texte numérisé. La première remarque, c'est que si vous avez un budget de temps, il faut consacrer le maximum au scan lui-même. C'est-à-dire qu'un bon scan va vous régler une grande partie de vos problèmes. Il ne faut jamais économiser sur le temps et sur le réglage du scanner. C'est-à-dire que vous avez, de toute façon, première chose, quand vous avez votre texte imprimé, prenez une loupe et regardez comment ça se présente. Allez, à la loupe. Parce qu'il y a deux cas où bien c'est bien imprimé. C'est la moitié du temps. Même dans les bonnes éditions. Ou alors c'est mal imprimé. Il y a des trucs qui ne vont pas. Qu'est-ce que ça veut dire bien imprimé? Ça veut dire que chaque caractère est complet, il n'y a pas de trou, vous n'avez pas un petit bout de délié qui saute avec un blanc, vous avez un caractère entier bien complet et vous n'avez pas de caractère collé. Mais quand vous regardez de près à la loupe, vous allez vous apercevoir qu'il y a un tiers des caractères qui sont cassés, c'est-à-dire qu'il en manque un bout parce que le papier est dégueulasse, parce que l'impression était trop rapide. Et puis au contraire, il y a des caractères qui sont sous forme de tâches, qui sont collés en patron. Ça, aucun logiciel ne vous les sortira. Pas possible. Hein. Donc si vous voulez regarder d'abord, faites-vous une opinion de la qualité du matériau que vous voulez. Alors, le journal, c'est le pire. Hein. Le journal, les éditions faites du style journal au 19e siècle, il y a des choses absolument dégueulasses. Ça, effectivement, on est... Les deux tiers de bon à la sortie, c'est pas mal, hein, mais ça veut dire qu'il y a un énorme travail par derrière. Inversement, il y a des éditions soignées, anglaises par exemple, qui sont impeccables. Le papier est lisse, enfin à peu près, suffisamment lisse. Les caractères sont bien distincts, bien dessinés. Là, c'est du gâteau. Mais attention, faites bien attention au réglage de votre scanner. Tous les logiciels de scan, il y a des curseurs. La luminosité, le contraste, je ne sais quoi d'autre, vous avez intérêt à passer une heure à faire vos réglages pour essayer d'obtenir en fichier image. Vous regardez à ce moment-là, vous agrandissez votre fichier image sur les caractères à la taille de l'écran et vérifiez à quoi ressemblent vos caractères, qu'ils aient au moins la qualité de ce qu'il y a sur le papier. Parce que si vous perdez au scan, vous perdez votre temps. Vous ne devez pas perdre au scan quoi que ce soit par rapport à ce qui est sur le papier. Méfiez-vous, ce n'est pas si facile que ça. Prenez votre temps, ou si vous faites faire ça par quelqu'un, vérifiez, surveillez cette étape. Forcément, tout en dépend. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a deux types de logiciels d'OCR. Il y a ceux qui fonctionnent standard, du genre Fine Reader, qui est le top, soi-disant. Bon. Il y a deux procédures successives. Une procédure de reconnaissance de squelette, et ensuite une procédure dictionnaire. Ça veut dire qu'il a en mémoire, en principe, il va chercher le squelette des formes qu'il trouve, et il va comparer à ce qu'il a en mémoire vive. Donc il va essayer d'identifier le squelette. Donc si c'est des caractères un peu anciens, par exemple le S sous forme de F sans boucle, etc., ça passera à côté à tout coup. Il va vous mettre un F à la place du S à tout coup. Bien. Mais si vous avez des caractères contemporains, propres, anglais par exemple, eh bien, pas de problème, tout est bon, les trucs ne sont pas liés. Et donc, il va reconnaître. Mais ensuite, il vérifie lui-même, c'est-à-dire qu'il compare tous les mots avec ou sans trou, parce qu'une lettre, finalement, il n'y arrive pas, il laisse un blanc. Et il compare avec un dictionnaire. Et là, ça, c'est une phase sur laquelle vous pouvez intervenir. C'est-à-dire qu'il y a un stock de mots possibles qu'utilise le logiciel. Donc, pour l'anglais, c'est toujours pareil, ça va tout seul, parce que les dictionnaires sont gros, il y a tout ce qu'il faut. Le français sort de tant bien que mal, l'allemand encore, c'est trop rien. Alors, le latin, je peux vous dire qu'il n'y a pas de dictionnaire disponible, enfin, ils sont des kikis par rapport à ce qu'il faudrait. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vérifier si votre logiciel accepte un dictionnaire que vous lui donnez. Un dictionnaire, c'est simplement une liste de mots. Les mots qui sont des mots, enfin, les suites de caractères qui sont des mots tolérés, reconnus, existants. Donc, ça veut dire que toute forme graphique qui représente un mot. Donc, vérifiez que votre logiciel accepte votre dictionnaire ou un supplément par rapport au dictionnaire existant. Parce que ça, c'est effectivement un problème clé. Sinon, si vous avez une édition ancienne, et ça existe, quand même, des fois, l'édition la plus récente, elle est de 1660, ça marchera. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler en mode image stricte, c'est-à-dire pas de dictionnaire, et vous allez devoir faire une phase d'apprentissage. Il y a un logiciel que je connais, qui marche comme ci, comme ça, mais qui marche tant bien que mal, et qui n'est pas connu du tout, que je vous signale, qui s'appelle Gamera. J'ai toujours regardé ce que c'est. C'est un logiciel développé aux États-Unis, mais qui est maintenu en Allemagne, et qui travaille strictement en mode image, c'est-à-dire que il va vous commencer par découper tout, découper en petits morceaux, et va vous demander ce que c'est. Et vous allez passer toute la journée ou deux jours à dire ça c'est un R, ça c'est un O, ça c'est un S, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et s'il y a des ligatures, normalement il va vous découper vos deux lettres et vous allez donner les deux lettres, etc., etc. Et ensuite, il va faire uniquement de la comparaison d'images. C'est à ce moment-là, c'est plus une de squelette. Donc moi, il compare des pixels avec des paquets de pixels. Hein. Et en théorie, si vous avez fait un bon apprentissage et que vous avez un fichier d'image propre, la caméra va obtenir quand même un taux de reconnaissance assez élevé. Alors, pas génial, mais quand même beaucoup mieux par les deux S ou les CT ou les E, toutes les abréviations. Hein, dans le système ancien, plus ou moins 16e siècle, c'est bourré d'abréviations. Vous pouvez les résoudre. Donc, caméra, je vous signale, c'est quand même une possibilité. Et puis, alors, et la deuxième phase, une fois que vous avez la sortie de l'OCR, vous avez un fichier dégueulasse, c'est-à-dire un texte avec plein de fautes, comme on vous l'a dit. Alors, la question, et ça c'est une question que je pose à tous les informaticiens que je rencontre, qu'est-ce qu'il y a comme outil correction rapide et efficace? Parce que de toute façon, un étudiant qui veut faire une thèse sur un corpus quelconque, il va commencer par numériser, hein, c'est 9 fois sur 10. Donc il faut lui dire, prends ci, prends ça, fais ci, fais ça. Donc, correction orthographique. Correction orthographique, il y a des logiciels libres, il y a CheckSpell, etc. Il y a Aspel qui a fait pendant un moment, LibreOffice utilise un logiciel qui s'appelle MySpell, et puis Abby utilise Enchant, qui essaye de regrouper toutes les possibilités. Alors, l'intérêt de ça, c'est que vous ouvrez le texte, le TXT, par exemple avec Abby ou avec LibreOffice, et il faut prévoir à nouveau un dictionnaire. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que vous allez avoir les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire qui vont être soulignés, un petit zigzag rouge ou quelque chose d'équivalent. Donc vous allez à ce moment-là faire défiler le texte, et normalement, si tout marche bien, vous allez avoir souligné, enfin, reconnaissable, les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et là, c'est à vous de jouer pour essayer de mettre de l'ordre. Jusqu'ici, ça paraît simple et logique. Sauf que, et c'est là la question, c'est que vous allez faire, si vous faites ça comme ça, vous allez faire 200 fois la même correction. Et la 200e fois, vous allez commencer à... Ça veut dire qu'il faudrait trouver un logiciel qui reconnaisse, enfin je veux dire, qui soit capable d'utiliser au fur et à mesure l'information de correction que vous lui donnez. Enfin, sinon au fur et à mesure, en tout cas, toutes les pages. Corriger une page, d'appuyer sur une touche, il récupère toutes vos indications et il les utilise pour la suite. Vous allez avoir des tas de mots qui vont être corrigés automatiquement sans être obligé à nouveau toutes les pages de recorriger la même faute. Et ça, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent. Voilà. Et ça, ce serait quand même hyper utile.
C'est ce que développe Jean-Marie Vitré au sein de l'équipe AdCost. Il veut absolument sortir de ce mode linéaire de correction qui n'est pas adapté du tout à des grands projets.
Exact.
Et du coup, on fait le logiciel qui s'appelle Diatag. Diatag, D-I-A-T-A-G. Dans sa dernière nouvelle version, il y en a une par semaine.
Dis-moi ça, il a écrit le long tableau pour tout le monde, comme ce sera plus raisonnable.
Donc, c'est le logiciel Diatag. Donc,
Diatag.
Qui permet déjà des phases de dialogue avec l'opérateur, on va dire l'expert. Donc, de trancher lorsque l'outil informatique avec ses dictionnaires et ses voies statistiques ne peut pas. Et surtout, il y a un enrichissement progressif des ressources. C'est-à-dire que quand on va corriger, par exemple, un dos, enfin, espace dos plus loin, espace fautif, et bien à ce moment-là, ça va être corrigé sur toute l'intégralité du texte. Et donc, à partir de là, il y a un enrichissement dans le sens où, voilà, on saura maintenant, souvent, le dos peut être confondu avec le dos. Donc ça rentre après.
Par exemple, les noms propres. Ce qui va se passer, si vous voulez, ce qui est pénible comme tout, c'est que les noms propres, eux, ne sont pas dans le dictionnaire. Donc le général de Péta ou Schnock, machin chouette, qui a fait n'importe quoi, tous les noms propres vont vous péter à la figure. Et donc, si vous ne pouvez pas, la première fois que vous les rencontrez, informer le logiciel, que ça, c'est un nom propre, il est bon. Corrigez une fois, c'est faisable. Mais si chaque fois que vous rentrez dans ce saunier, il faut remettre dans ce saunier, c'est mourir.
D'où l'importance aussi de prendre ces outils ergonomiques avec des menus déroulants aussi, et qui permettent vraiment de mettre à l'aise l'opérateur. Parce que quand on le fait, c'est vraiment très fatigant. Si on prend le cas de Dali, pour parler des logiciels qui existent sur le marché, il y a une partie pour comparer l'image avec le texte, donc avec plusieurs petites images. Au bout d'un moment, on a les deux qui partent dans des sens totalement opposés, et ça fatigue, c'est pas du tout adapté à un processus de production de millions de mots. C'est bien pour millions, mais pas plus.
C'est ça. Mais ça, donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu très important, ce problème de la correction. Parce que l'OCR, je dis, de toute façon, il y a une limite qui tient à la qualité de l'impression. Et donc, vous allez forcément y avoir un paquet de trucs à corriger. Et donc, le problème, c'est qu'entre corriger pendant une journée ou deux jours et corriger pendant un mois, ça ne donne pas le même résultat sur le système nerveux. Et le premier logiciel qui soit vraiment opérationnel, le premier logiciel libre, j'entends, qui fonctionne et qui soit efficace dans ce domaine, à ce moment-là, ça va devenir un must international. Hein.
Automatique tout court, parce qu'on ne peut pas trancher toujours dans le noir comme ça, surtout quand on travaille dans le cas sur la presse régionale où on retrouve forcément des géolectes, et en plus on a un vocabulaire qui est considéré comme désuet par les dictionnaires actuels. Donc là on nous propose des formes qui sont erronées, donc on ne peut pas travailler de toute façon avec. Et si on part de l'idée que la matérialité est importante, la graphie est importante, et que même une erreur, on doit la conserver comme ça, si elle est présente, parce qu'elle est significative, eh bien, on est obligé de faire du semi automatique et pas d'automatique.
Et puis, il y a quand même aussi une fonction qui est importante, c'est de pouvoir comparer l'animalisation avec l'image. Pour savoir, au fond, si... parce que si vous dites simplement, ah oui, à ce mot-là, de toute façon, non, c'est pas ça. Je ne crie pas, on se souvient avec un L ou avec sans L, je ne sais pas quoi. Toute la question, c'est en fait, en pratique, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le texte imprimé. Donc si on peut avoir, au fur et à mesure, défiler le texte et faire défiler le texte imprimé sans être obligé de se livrer à des acrobaties, ça, c'est aussi une aide. Parce que quand vous travaillez pendant un mois pour corriger le texte, plus vous avez d'aide, mieux vous vous sentez.
Je voudrais juste insister sur l'importance peut-être à certains moments de nouer des partenariats avec les bibliothèques et donc, ce qui avait été dit, des possibilités effectivement sur ces phases de numérisation, à la fois préparation corpus, numérisation. La bibliothèque peut prendre en charge un certain nombre d'opérations et valoriser jusqu'à un certain point, c'est-à-dire effectivement offrir un PDF, offrir. En travaillant avec un laboratoire de recherche, permettre de fournir à ces laboratoires éventuellement un format de texte qui permettra bon, de faire bien sûr une correction, parce que pour l'État, ce n'est pas utilisable quand on utilise les sociétés. Mais ça permet de mettre en place une répartition et d'un accompagnement qui permet aussi de diffuser les fichiers, même si ce n'est pas des fichiers qui sont totalement propres, parce qu'on peut parfaitement diffuser des fichiers en mode image avec une sérialisation, bon, ce qu'on appelle l'image texte caché, hein, qui permet déjà aux chercheurs de travailler sur les corpus, même s'il n'y a pas la qualité de sérialisation, comme on l'a vu, qui demande à travailler manuellement. Actuellement, on ne sait pas faire. Mais je pense qu'il faut bien penser à cet intérêt réciproque de travail bibliothèque, équipe de chercheurs, ce qui se fait à l'ONS sur certains projets actuellement.
Tout à fait. Et même éventuellement les archives.
Et les archives.
C'est aussi un monde. On sert à la fois du manuscrit, mais aussi de l'imprimé.
Effectivement, il y a les pratiques de la. On parlait de la reconnaissance de l'écriture manuscrite dans les images. Il y a des. On en parlait tout à l'heure. Il y a des choses qui se mettent en place aussi dans certains centres d'archives, archives départementales, pour de la reconnaissance, assister à la transcription, des choses qui sont. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine, mais qui se font aussi dans le domaine du signalement des archives aussi. Il y a beaucoup de travail sur des normes qui existent, des normes internationales, qui permettent déjà pour les chercheurs de repérer des corpus, même si ce n'est pas numérisé. Donc il y a un gros travail aussi qui se fait.
Justement, c'est un peu là-dessus qu'on pourrait rebondir, dans le sens où on passe tous énormément de temps à constituer ces corpus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils deviennent après?
Voilà,
ça implique un travail de structuration qui ne peut pas se passer, hein, clairement, et surtout de suivre l'évolution des formats de métadonnées. Hein. Je pense en ce moment avec le projet Clarin notamment. Pour donner de la visibilité aux corpus qui sont créés dans l'espace francophone. Mmh. C'est une des recommandations du consortium Corpus Écrit, notamment, mais c'est un bon sens. Alors, il y a ça, il y a aussi le XML de l'I, on ne pourra encore pas parler du Dunkor, qui est encore un sens maintenant. Mmh. Voilà. Et toutes ces questions, ça prend du temps aussi, mais surtout des compétences qui ne sont pas forcément celles des littéraires ou des linguistes. Enfin, je prends que ces cas de figure-là. Et ça amène aussi à interroger notre processus de formation, dans quelle mesure, par exemple, dans un doctorat, ces activités peuvent être intégrées, valorisées. Après, au niveau de l'après-thèse, dans quelle mesure justement ces efforts, ces constructions de corpus ont une valeur aussi scientifique, quels droits sont liés à ces corpus. Je pense par exemple à la notion d'annotation. Une annotation fine et contrôlée, là on a la frontière entre la note et le texte. C'est une vraie question à mon sens. Quand on construit un dictionnaire,
oui, moi je suis pas partisan, un peu fanatique de l'open source. Si je suis payé par l'État, droit d'auteur, pour moi j'en ai aucun, je ne veux pas en avoir. Ceci dit, ce que vous dites, je sais parfaitement important, ça j'avais oublié, surtout que pourtant j'ai fait cours avec Odé Chart pendant un certain temps, et j'ai essayé d'expliquer aux futurs conservateurs l'importance de ça. Ça se développe, mais lentement. L'idée qu'il faut faire la mise en ligne open. Open access, la notion d'open access dans les institutions publiques, en tout cas françaises, arrive, mais avec du retard. Hein. Je peux vous dire que même les bibliothèques qui utilisent pour gérer leur bibliothèque des logiciels open source, il y en a de plus en plus, mais encore une minorité. Et je peux vous dire que j'ai fait du prosélytisme comme un givré pendant des années pour arriver à faire passer Koa, par exemple, dans les pratiques. Ça marche. Et alors, les bibliothèques, une fois qu'ils sont passés, ils disent « bah oui, c'est évident, c'est génial, ça marche tout seul ». Si vous avez vu la tête qu'on m'a fait quand je suis arrivé en disant « vous mettez Koa, tiens ». Bon, mais c'est vrai qu'il y a du progrès. Et que les bibliothèques peuvent, normalement, devraient, non, en principe, jouer un rôle considérable à la fois dans le processus de sérialisation et dans la mise en ligne. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de bibliothécaires qui y pensent. Hein. À l'ENSI, je pense qu'on y travaille. Si vous connaissez ce milieu.
Oui, bien sûr, oui. Et la réflexion, effectivement, et dans la répartition, là, une fois de plus, sur les métadonnées, on peut dire que le monde des bibliothèques a l'habitude des métadonnées du catalogage, donc tout ce qui est métadonnées type du Dunkor, il y a un passage qui se fait assez facilement. Après, ce qui est plutôt TUI, on rentre dans le contenu, donc là, c'est plutôt l'équipe de chercheurs qui va travailler sur ce type de format. Mais il y a des répartitions qui peuvent se faire aussi dans le. Si on vous parliez là, de modalités de traitement, on peut parler de chaînes de numérisation avec des étapes différentes. Et il y a vraiment matière à trouver des points de, de, de passage, d'entente.
En plus de ça, ce que je trouve, ce qui serait, mais je pense que ça se développe, mais lentement, c'est la mise en réseau des bibliothèques entre elles. C'est-à-dire que si une bibliothèque a développé un logiciel, toutes les autres en profitent. Oui, oui. Et vu la quantité de bibliothèques, les bibliothécaires qui ont de la tête, enfin, qui ont des compétences ici et ça, s'il y en a qui fait quelque chose quelque part, au moins que ça percole. Que chacun s'occupe de son petit logiciel verrouillé, parce que chacun réinvente la roue à ce moment-là.
J'avais juste encore une question. Justement, sur le dictionnaire développé pour la numérisation du petit comptoir, j'imagine que pour le petit bossois ou le petit nordiste ou le petit je ne sais pas quoi, le dictionnaire qui a été fait pourrait être très intéressant.
Oui, valoir en partie du moins.
Oui. Si pas pour toutes les choses désuètes et puis même, j'imagine. Oui, c'est ça, oui, le général Boulanger, oui, et puis les Armandes, etc.
Sachant qu'on s'était déjà basé sur des ressources de Frontex aussi, forcément, oui. Les autres qui nous intéressaient pour les gens du monde. Et aussi du monde, la question du monde, si c'est pas un rapport de main, mais oui, en effet, oui, c'est pour ça que je parlais aussi de la question du partage de ces éléments-là, qui sont pour l'instant, et c'est ça au plus qui est compliqué, c'est qu'ils ne cessent de s'enrichir au fur et à mesure. Mmh. Donc dans quelle mesure elles peuvent être finalisées.
Il y a des métadonnées dans le dictionnaire, non? Par exemple,
des métadonnées d'exploitation, mais...
imaginons que le dictionnaire soit partagé, il y aurait sûrement des choses qui sont propres à la géographie. Non, c'est une liste de mots.
Elle s'est triée par catégorie, grammaticale pour l'instant. Mais on pourrait faire ça, je pense que ça prendra pas encore énormément de temps, mais par contre, pour remettre ce qui vient du violet, ce qui vient, ça c'est plus compliqué.
De toute façon, il ne faut jamais perdre de vue une chose. Dans ce domaine, si vous donnez quelque chose, non seulement vous ne perdez rien, mais c'est vous qui vous enrichissez. Ça, c'est vraiment, il faut changer complètement le réflexe, c'est-à-dire de c'est à moi, c'est pour voisin, puis il va me piquer mes idées, tu penses, piquer mes idées. Au contraire, vos idées, vous avez tout intérêt à ce qu'elles s'étendent. À ce moment-là, vous avez une possibilité qu'il y ait du retour. Sauf qu'évidemment, on vous dit, vous êtes nul, mais c'est pas grave, mais qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la chose et que ça avance. Et qu'à ce moment-là, vous-même, à ce moment-là, vous remontez d'un cran. Donc, distribuez tout ce que vous fabriquez. Ne cherchez pas à savoir si vous avez des droits dessus. Mentalité plus médiévale, que sinon au Moyen-Âge on partageait. Mais c'est une mentalité libéralo-capitaliste dont il faut se débarrasser.
Je me permets juste de rajouter une question à Alain, par rapport à quelque chose que vous avez dit auparavant, la question des droits sur les textes médiévaux. Alors je voulais juste faire le commentaire que on aimerait. Bon, je suis très partisan de votre avis que le Norteur est mort depuis une centaine d'années et c'est le domaine public et tout ça, mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux collègues qui, par exemple, ont mis en ligne les textes médiévaux, qu'on pensait ne pas être sous droit et qui, par la suite, ont reçu des menaces de la part de
l'éditeur. Mais les menaces, vous vous êtes mis dessus.
La maison de l'édition.
Mais oui, mais les menaces.
Vous avez des droits sur ces textes, vous n'avez pas les droits de les diffuser. Est-ce qu'on peut prendre dans ces cas-là?
Bon, la question, elle est relativement simple. C'est une question de sociologie. Fermez vos oreilles. C'est une question de sociologie du milieu des intellectuels. Les intellectuels, par définition, sont trouillards, et même il y a un collègue, un Allemand, qui me disait « Sie sind alle feige ». Ils sont tous lâches. C'est-à-dire que les éditeurs, que ce soit Brepols, Picard, Champion, enfin, toute cette drose, toute cette clique merdeuse, ils font des menaces, et ça marche. Ça marche, et les gens se replient, s'imaginent qu'il va y avoir un procès. Il n'y a jamais eu un seul procès. Et moi, j'attendrai qu'il y ait un procès pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Les procès, il y a eu quelques procès sur des images de tableaux. Et le juge a dit, mais ce Toto, je ne sais plus qui, Monet, n'importe qui, il est mort plus de 70 ans. N'importe qui peut faire des images de ces tableaux, ce qu'il veut. Terminé. C'est-à-dire que le droit est tellement simple, il y a tellement peu d'attendus ici et ça. Si c'est le texte en brut, il n'y n'y a aucune possibilité. Alors, Droz et compagnie, ils sont groupés, ils ont de l'argent, ils payent des avocats qui sont prêts à vous lancer des menaces qui ont un air comminatoire, mais ils seront pas foutus de vous dire sur quel article du code ils s'appuient. Moi, le code, je l'ai épluché tant et plus, j'en ai discuté avec des collègues de la fac de droit. Prenez, au lieu de vous occuper de ça, essayez de trouver un collègue qui enseigne le droit quelque part et demandez-lui son avis. Sur les textes, il n'y a aucune espèce de possibilité de discussion. Il y a des possibilités de menace. Parce que si vous menacez, ça marche.
Juste une petite intervention. Il faut comprendre qu'un avocat n'a pas peur de dire des choses fausses, étant donné que dans son travail quotidien avec d'autres avocats, ils sont dans une relation de lutte forte. Et un avocat va dire des choses fausses à un juge. Avec un grand sourire, le juge va savoir que l'avocat dit des choses fausses, il va garder le sourire. Si c'est un non-avocat qui dit au juge, c'est un outrage au magistrat, c'est pas la même chose. Et donc, quand l'avocat est face à vous, il va être dans une lutte comme quand il est face à un autre avocat.
Il y a quand même une limite. Les juges sont quand même des juges, il ne faut pas rigoler.
Ah non, j'ai déjà vu, c'est mon travail de...
La plupart des juges ne sont pas forcément non plus très courageux, mais ils regardent ce que racontent les deux parties. Et en général, ils ne rendent pas leur jugement dans les 5 minutes. Ils donnent un délai souvent fort long. Ils discutent entre eux, ils sont comme nous, ils sont en train d'être à plusieurs. Ils disent, bon, ben, il y a un problème, là, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et donc le président du tribunal, les assesseurs, ils disent, bon... Mais s'il y a un texte de loi, s'il y en a un qui s'appuie sur un texte de loi, qui n'a peut-être pas trop de discussion, puis que l'autre, s'il n'a rien à raconter, sinon des blablabla, que si, que ça, qui s'appuie sur des grands principes, eh ben, le juge, lui, il ne s'embête pas, il dit non, la loi, c'est ça, moi, je ne peux rien. Et là, cherchez-moi des textes qui justifieraient des droits sur des auteurs anciens. Moi, j'ai cherché tous les côtés, et je peux vous dire à l'école des chartes, ils étaient peut-être trouilles, c'était lamentable, je l'avais honte. Et je leur ai dit, mais sortez-moi un article de loi pour lequel, qu'est-ce que vous avez comme article de code? Ils n'en avaient aucun. On dit oui, peut-être, mais on risque quand même un procès. Bon là, je voulais dire, c'est une affaire à des lopettes, c'est comme ça. Et je vous dis, c'est un problème de sociologie du milieu, c'est pas un problème de loi. Et ici, le directeur de l'école normale, ici, Faron, il a interdit de mettre en ligne un certain nombre de choses par connerie pure, par fainéantise et par lâcheté. Et ça, je suis prêt à le répéter en public. Et puis j'attends qu'il me menace, tiens. Parce que pour les menaces, je ne suis pas mauvais non plus.
Qu'un avocat contacte, l'avocat ne dira pas nécessairement la vérité dans le contact qu'il aura avec vous.
Oui, pour faire pression.
Et simplement, si vous vous retirez, il a gagné.
Il a tout gagné,
forcément.
Hein?
Non. C'est que l'avocat, il va faire pression simplement peut-être en ne disant pas la vérité, mais si on n'a pas, il a tout gagné.
Il faut donner les textes. C'est pas la loi, les procès, c'est une question de texte. Un juge, on lui apprend à commenter des textes. On fait des années d'études pour apprendre d'abord en gros où sont les textes et ensuite savoir comment on les commente. Un jugement, c'est toujours un commentaire sur des textes. C'est des explications de texte, dans un formalisme comme ci, comme ça. Mais si vous n'avez pas de texte, à ce moment-là, s'il n'y a rien, s'il n'y a ni dans un sens ni dans l'autre, c'est de jurisprudence. Mais la jurisprudence doit se fonder sur des textes, parce que sinon, vous allez en appel, et en appel, on dit non, moi, c'est... Et donc, si vous voulez, là, il y a quand même un système juridique, et il y a des cas où c'est effectivement très embrouillé. Et c'est ça qui permet aux avocats, où il y a deux règles contradictoires. C'en est plein partout. Mais il se trouve que dans ce cas précis des auteurs anciens, le texte, il n'y en a qu'un, et il est dans un sens unique. Parce qu'en réalité, les enjeux pratiques, ils sont voisins de zéro. Parce que si vous mettez ensemble le chiffre d'affaires de Droz, de Champion, de Brépols et de machin chouette, c'est presque rien par rapport aux enjeux de Gallimard, de Flammarion et autres, qui eux ont des auteurs actuels. Ceux-là, ils sont presque bigornés, et ils ont le droit pour eux. Pas confondre. C'est-à-dire que quand on dit Adopi, machin, Adopi, truc, molle, le droit d'auteur, là, ils ont le droit pour eux, parce que les auteurs ne sont pas morts. Donc les textes, même ceux qui sont plus disponibles, d'auteurs qui sont morts depuis moins de 70 ans, les éditeurs ont le droit. Ça, vous perdez à tous les coups, si vous êtes d'accord. Inversement, les auteurs qui sont morts avant 1940 et qui ne sont pas morts pour la France, c'est le domaine public. Et ils le savent parfaitement, le Gaffiot est dans le domaine public. Parce que Gaffiot est mort en 1940 ou 39. Et les œuvres complètes de Freud sont dans le domaine public, parce que Freud est mort en 1939. Et vous avez tout Freud maintenant sur Gutenberg. Et je peux vous dire que alors les traductions, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la trad, c'est la date de la traduction. Donc les PUF sont toujours détenteurs des droits sur la traduction de Freud. Mais le texte original de Freud, faites-en ce que vous voulez.
Il n'y a pas d'autres commentaires sur la question de droit et de numérisation. Bon, peut-être, je vais peut-être lancer la deuxième thématique, les modalités de traitement. Encore une fois, je vais tout un petit peu parler dans vos exposés, mais peut-être, j'invite chacun à résumer en gros les logiciels que vous utilisez pour l'analyse, pour quand même une optique générale. Ce qu'on utilise, et quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce que vous aimeriez avoir qui n'était pas là. Peut-être si
vous êtes pas mal gagné. Alors, moi, ce que j'aimerais avoir qui n'est pas là, c'est un logiciel qui regroupe toutes les fonctionnalités des 5 logiciels que j'utilise en un seul. Ce serait très simple. Mais dans ce que je trouve extrêmement efficace, moi, c'est les dictionnaires électroniques spécifiques. Nous, je permets de créer ces dictionnaires électroniques spécifiques. Et que quel que soit votre corpus, en général, on le connaît, on le maîtrise, on a souvent besoin de mots qui n'existent pas, ou bien de donner des codages à des mots, ou à des groupes de mots, enfin, pour une raison ou pour une autre. Ça, je trouve ça extrêmement pratique. J'aime beaucoup aussi l'analyse factorielle des correspondances d'un StarTex qui fait sauter aux yeux des poules de façon à plonger après dans le texte en sachant ce qu'on recherche. Quand on ne sait pas ce qu'on recherche, c'est une efficacité redoutable également. Et puis les spécificités, enfin savoir quel texte par rapport au lexique total sont en surreprésentation, sous-représentation. Enfin, c'est ce que je trouve le plus utile. Ouais. Et j'aimerais qu'il y ait tout ça dans un seul et même logiciel, mais ça fait des années que je le demande, et pour l'instant c'est pas encore le cas, mais ça viendra, je crois. Ouais.
Alors je vais commencer par dire à TXM très bientôt. Ouais. 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 Voilà. Sinon, j'utilise le logiciel donc Sato, qui est développé par François Daoust à l'UQAM. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de procéder à des annotations et les exporter. Donc, ça, c'est une fonction qui m'intéresse beaucoup, bah, notamment pour le cas d'études sur le discours rapporté. En fait, on peut procéder à des expressions régulières et des objets comme ça, donc ça va bien. Sinon, j'utilise Hyperbase, surtout pour les fonctionnalités liées à la co-occurrence et les représentations élaborées. Et puis aussi collaborer pour la facilité de navigation entre les indices et le texte. Voilà, on dit la fonction hypertextuelle de base, je ne dis pas base. À StarTex, son avantage étant bien sûr cette fonction dont on va parler dans les groupes co-occurrents généralisés. Mais plus que ça, c'est le seul logiciel qui nous permet véritablement d'intervenir dans les matrices lexicales, jusqu'ici, dans ce que je maîtrise. Et de pouvoir.
C'est quoi ce logiciel ?
AstarTex, c'est le frère de Viatag ou de la sœur, en
anglais. Le secret,
bien. Et téléchargeable à la demande. Et qu'utilise aussi maintenant. Qui n'est pas du tout AstarTex. Qui est développé par M. Chitré. Alors, franchement. C'est un logiciel qui est basique au niveau de sa présentation, qui contrairement à TXM ne permet pas, si vous voulez, d'un seul clic de visualiser et d'aller entre toutes les fonctionnalités. En TXM, ça m'a tout de suite choqué. J'ai vu que voilà, on pouvait véritablement. Voilà. Et du moins, la navigation n'était pas coupée de l'exploration statistique. Tandis que dans un StarTex, la navigation est coupée de fonctionnalités statistiques. Voilà. Et on peut vraiment intervenir sur les calculs, les vérifier. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et pour les essentiellement, un peu d'XIP3, mais qui
pas mes attentes au niveau de la navigation, du retour au texte. Et un logiciel de mon laboratoire qui s'appelle Ictena, qui est très bien pour naviguer sur les petits corpus, donc en avec ceux où je travaille, mais qui est dépourvu de tout indice quantifié. C'est-à-dire que c'est très bien pour faire remonter des expressions figées, mais qui ne permet pas de comparer les différentes partitions. Voilà, en fait, c'est ça son principal défaut, se parfaiter la manipulation.
Tu fais des éléments rapides ?
Oui. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut justement poser des contraintes à la requête. On ne peut pas faire dans les cycles 3. Donc, il faut
activer TXM. TXM, tu peux faire ça. Tu dis, je veux un sujet suivi d'un certain nombre de mots, plus loin un verbe. Mm-hmm. Je veux que tout ça soit dans une phrase, dans un paragraphe. Je veux que le sujet commence par J, que la propriété du troisième mot soit ait la même valeur que la propriété du cinquième mot. C'est tout un langage de requête qui ressemble un peu à ce qu'a montré Tom ce matin. Avec, il a montré la fenêtre avec plein de caractères bizarres. Sauf que dans TXL, pour l'instant, c'est dans une ligne. Et donc, on va attraper des motifs s'étendus. Et on va surtout pouvoir faire des requêtes sur. En plus de la forme, on va chercher les places, les caresses, machin, ou alors on va carrément chercher le lemme, on va croiser le lemme avec la morphosyntaxe. Donc on va arriver à avoir des trucs très précis.
Ça fonctionne avec des grammaires locales, ça fonctionne comment
Les étiquettes pour l'instant dans TXM, en fait, tu as deux façons de faire, soit elles sont déjà là et on les laisse,
ouais.
Soit on appelle Tritagger avec un modèle de langue choisi par l'utilisateur.
Mais il y a besoin de programmer, enfin, je veux dire, c'est simple, il y a un petit tutoriel.
Il faut faire en sorte que ce soit simple.
Ouais, parce que moi, les lignes de commande à l'infini, je m'en suis absolument pas capable et j'ai pas envie de.
Non,
je me sens
perdu.
Ah, d'accord, ok.
Il y a juste un problème avec Tritagger, qui est un logiciel gratuit et pas libre. Donc, on ne peut pas le mettre dans TXM par défaut.
Exactement.
Que ce soit l'utilisateur qui aille chercher le machin qui va mettre.
Non, longtemps j'ai utilisé Philologique. Philologique, donc un logiciel développé à Chicago, qui permet d'utiliser, manipuler des corpus de grosse taille. Mais avec une seule un mot, quoi. Il y a le mot puis rien de plus. On ne peut pas rajouter des indications sur chaque mot, comme ça c'est une limite énorme. Mais on peut donner beaucoup de. On peut indexer le corpus avec une vingtaine de champs, ce qui est pas mal. Enfin, moi je n'ai utilisé 20 champs, j'utilise 5 ou 6, c'est déjà beaucoup. Et donc je suis passé à l'automne à TXM et j'en suis ravi. Parce que toutes les limites, la plupart des limites de philologique sautent, puisque je peux mettre autant d'informations au début de chaque texte que je veux, et ensuite sur chaque mot, je peux aussi mettre autant d'informations que je veux. Donc c'est l'idéal d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut, un corpus à ce moment-là, on a une information à deux niveaux, au moins l'information au niveau des textes, si on trouve le corpus, et l'information au niveau de chaque élément, chaque mot. Et donc le système qui fonctionne sur le moteur de recherche CVB, qui est le truc de Stuttgart, pour l'instant, je ne vois pas trop où sont les limites. Hein, et maintenant, il faut rajouter par-dessus des facilités pour interroger et pour manipuler. Alors, l'idée de base de TXM, c'est une fois qu'on a des manipulations courantes, enfin déjà assez habiles, très habiles même, qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et puis, pour faire tout un tas d'excentricités ou pour des manœuvres comme ci ou comme ça, on va suivre sous R. Et donc l'export sous R qui se fait en cliquant sur une icône, tac, exporté sous R, ça y est, c'est dans le workspace de R. Là, vous n'avez pas de limite, c'est à vous de jouer. C'est-à-dire que, d'abord, il y a des bibliothèques, il y a 1800 bibliothèques disponibles. En tout La question souvent, c'est de trouver la bonne bibliothèque, parce que vous avez plusieurs bibliothèques qui vont vous faire la même chose. Et puis savoir, comme on vous l'a expliqué très bien ce matin, il faut savoir s'en servir. Et c'est un outil qui n'a pas de limite pour l'instant connue, hein, c'est vous faire tout ce que vous voulez avec ça. Pourvu que vous sachiez ce que vous voulez. Donc les procédures, si vous avez une idée d'une procédure, vous pouvez l'implémenter dans R, si elle n'est pas déjà. Donc, fonction, statistique, graphique, à vous de jouer.
Et juste l'intérêt de R aussi, c'est un très grand nombre d'utilisateurs dans des disciplines très variées et des forums en ligne d'utilisateurs qui, avec des personnes qui répondent assez vite à des questions pointues. Voilà, par rapport à des logiciels qui sont développés dans certains laboratoires de certaines universités où le pool des utilisateurs est moins grand. Dans R, c'est un Chinois ou un Néo-Zélandais qui va vous répondre dans la minute.
On a la même chose sur Nauge, il y a un group de Nauge enfin, au niveau européen, et pareil, enfin, les questions, vous avez un problème avec de n'importe quoi, de tag, de grammaire locale, enfin, en général, ça répond très très vite aussi. C'est très collaboratif, ça, c'est pratique.
En tout cas, je pense que pour ce qui concerne, la statistique lexicale et toutes les procédures qu'on peut mettre en œuvre, et même d'ailleurs éventuellement le lien avec Descartes, qui peut être très très important, je ne vois pas trop où sont les limites pour l'instant. Je veux dire, la question c'est qu'il faut évidemment retrousser les manches et puis trouver les bonnes bibliothèques avec les bons paramètres et puis éventuellement écrire des suppléments. Et ça évidemment, c'est du travail. Mais je pense que l'idée de base de TXM, c'est je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Franchement, pas pour leur jeter des fleurs, mais
c'est bon, c'est au revoir.
Un des intérêts de R, de TXM aussi, et un truc que ratent beaucoup de logiciels vraiment dédiés à l'analyse de données textuelles, c'est les questions d'export des tables, et surtout des figures. Bien souvent, je ne vais pas faire la liste des logiciels qui ont, à mes yeux, ce défaut. Bien souvent, on se retrouve avec une image dont on ne sait que faire et qui est impubliable. Voilà. Donc, l'intérêt de R, l'intérêt de TXM, c'est de sortir des figures au format vectoriel. Et ça, c'est très appréciable. Tous les problèmes de superposition peuvent être réglés dans Inkscape ou Illustrator. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intérêt qu'on a à utiliser des choses facilement partageables en dehors de la communauté des lexicomètres, en particulier en termes d'analyse statistique. Il y a un outil qui a souvent été utilisé depuis ce matin, c'est celui des spécificités de Pierre Laffont. Ça, c'est un défaut de TXM. C'est le défaut aussi que TXM partage avec Lexico. Souvent, on ne garde que l'exposant. On parle d'un score de spécificité. On ne garde que l'exposant. Ça ne parle qu'aux spécialistes d'analyse de données textuelles. Si vous voulez partager ça, c'est très compliqué. Il faut faire une conversion sur une p-value, une valeur p. Si vous voulez parler avec les autres disciplines, ça passe par là. Et aujourd'hui, seul, à ma connaissance, SPAD et DTMVIC de Ludovic Lebar font cette conversion. Voilà. Donc, ouais, ce souci de partage, de communication, et, dans un langage partagé par le plus grand nombre.
Et cet indice de spécificité était quand même complété par une indication sur la fréquence totale et la fréquence dans la partition. C'est juste le transfert. Mais c'est vrai que.
Un peu propos ce qu'il vient de dire de l'export, parce que c'est quelque chose que. Bon, en utilisant un logiciel différent, c'est-à-dire le logiciel Tiger Search, je l'ai évoqué un peu ce matin, c'est exactement au moment de l'export, et vous voyez un beau graphique qui est bel à voir, mais c'est pas vraiment le publier, il a fallu générer des scripts pour faire des pour faire des concordances qui sont plus utilisables, quelles ont été vos expériences quant à l'export pour les autres logiciels, est-ce que c'est difficile d'utiliser les résultats ou comment vous copiez dans un tableur ou...
Pour nous, c'est simple, dans le sens où il y a un bouton export. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le bouton export, on exporte la concordance, on exporte en TXT, en un peu ce qu'on veut. Quand ces tableaux, enfin, tout ce qu'on est susceptible de demander peut être exporté et ça le fait automatiquement. Et depuis la version de l'année, enfin, une des 12 000 versions de l'année passée, et aussi maintenant les graphiques, c'est-à-dire qu'au lieu de, avant il fallait exporter les données chiffrées, les mettre dans un tableur pour avoir une courbe, maintenant, enfin, un clic, une courbe. Après, pour, j'ai pas eu de problème, de souci d'impression d'image. Une fois ou deux, j'ai dû retoucher dans Illustrator pour que ce soit en 300 dpi. Enfin, c'était juste, voilà, la qualité était là, suffisante pour passer en 300 dpi. J'ai pas eu trop d'autres soucis. C'est vraiment pas un problème que j'ai vraiment rencontré.
C'est lexico.
Non, c'est Nouge. Je vais peut-être écrire.
Ouais, Nouge, Jean. Non. Allez-y, c'est pour mieux l'écrire pour.
N2OJ, c'est à. Il est complètement libre, il est chargé des parts qu'il veut, et puis n'importe qui peut demander aussi à participer au Nouge Group. Enfin, il suffit d'écrire au modérateur qui est le créateur, d'ailleurs, du logiciel qui maintenant vit tout seul dans toute l'Europe et quasiment dans le monde. Vous pouvez tout à fait écrire en disant que c'est, enfin, vous m'avez vu et que je vous ai donné le truc, il n'y a pas de souci. Enfin, je vous ai donné l'adresse du Yahoo Group. Enfin, il suffit de taper Yahoo Group Nouge dans Google, et puis dire que. Parler de Nouge, il n'y a aucun problème, tout le monde peut contribuer, utiliser vraiment de façon libre et gratuite. Il s'installe en 3 minutes, enfin, j'ai l'impression de faire la pub de Nouge, mais je veux dire sans. Et c'est le seul gratuit enfin, qui me semble enfin, facile à, d'accès comme ça et collaboratif. Parce que, voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la collaboration. Dès que j'ai un souci, je pose la question et en quelques heures, j'ai une réponse en mail. Ce que j'ai pas trouvé jusque-là sur les autres logiciels.
On a beaucoup parlé de comment traiter des très grands corpus des logiciels, comment créer des données quantitatives, statistiques. Quelle place au retour au texte, comment est-ce que vous passez de ces données statistiques assez abstraites vers des données qualitatives, est-ce que vous utilisez souvent ou est-ce plutôt dans ce visée plus générale?
En permanence, le retour au texte est d'un clic en fait.
Retour au texte, je veux dire, ça n'aurait aucun sens de partir que sur des chiffres. Je veux dire, non mais Jean-Marie Vipré dit très bien, il dit toujours, blanc, on va l'associer tout de suite à la virginité, ou à l'associer au noir et blanc au cinéma, enfin voilà, il faut arrêter d'associer le blanc à tout ce qui est forcément blanc, enfin blanc, c'est pas forcément tout blanc non plus. Et après, on peut partir dans des stéréotypes extrêmement risqués, donc le retour au texte est, à mon sens, absolument fondamental, même si ça prend du temps. Mais ça permet d'éviter des contresens et des malentendus absolument gigantesques, je pense.
Et c'est aussi pour ça que le codex, l'exploration systématique du codex par la co-occurrence est aussi important, parce que ça atténue la rupture qu'on avait entre l'observation des indices quantitatifs et le hors corpus, l'interprétation, etc. Là, on a tout de suite une prise en compte d'une unité supplémentaire qui est précieuse aussi.
Là, l'AFC montré tout à l'heure, c'est extrêmement riche de ce point de vue. Et là, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale. Ça permet un pré-retour au texte qu'on n'a peut-être pas avec des chiffres, ou des tableaux de chiffres.
C'est-à-dire qu'il faut, impérativement éviter de s'imaginer que parce que vous avez mis un graphique factoriel, tout le monde doit voir exactement. Dire sur le graphique factoriel, à droite en haut, on voit bien que 98% des collègues disent que ce graphique, je vous bouge l'échelle, je ne comprends rien, que cette histoire. Ça ne prouve rien pour personne. Donc, vous pouvez toujours mettre en annexe dans un coin un graphique factoriel si ça vous amuse. Dans l'état actuel des choses, de toute façon, même pour moi, ça ne prouve rien, un graphique factoriel. C'est un outil exploratoire. Donc, le problème, c'est d'avoir des outils d'exploration pour, effectivement, comprendre quelque chose. Et pour voir ce que le sens du texte, s'il y a une évolution. Bon. Et donc, les collègues à qui vous proposez votre texte, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose de compréhensible. Si vous avez juste trois petits tableaux avec deux colonnes et cinq lignes, pour voir que ça change entre les colonnes de gauche et les colonnes de droite, ça marche. Il va regarder, il va dire, bah oui, effectivement, ça monte partout. Bon. C'est comme ça. Ou un graphique simple avec juste une courbe qui monte. Bon, encore, vous pouvez y aller. Mais plus, non. Je veux dire, c'est pour vous. Enfin, je veux dire, c'est le processus, il ne faut pas confondre. Vous pouvez tout. Alors, si on vous demande, si les étudiants ont besoin de vous dire qu'on leur explique comment vous y êtes arrivé, là oui. Mais si vous, au moment de la présentation des résultats, il faut que le résultat soit compréhensible dans une langue ordinaire. Pas faire appel à des graphiques obscurs ou à des concepts que vous aurez créés vous-même dans votre coin. Bon. Et en tout cas, pour l'export de ETXM, vous avez l'export en CSV qui marche comme sur des roulettes et qui permet de récupérer ça sous n'importe quel logiciel. Vous pouvez envoyer ça sous MySQL, vous pouvez envoyer ça sous un tableur, vous pouvez envoyer ça sous un texte. Chaque fois, normalement, avec un minimum d'habileté, vous récupérez ça en bon état. Et puis vous avez un graphique en SVG ou en OPS, à ce moment-là vous l'insérez n'importe où dans votre traitement de texte. Puis vous tirez dessus pour l'agrandir, le mettre juste au bon endroit, et c'est joli comme tout.
Peut-être pour reprendre, ça va passer un petit peu à la dernière thématique qu'on a prévue, c'est. Donc je liais à la discipline, comme vous venez de dire, on vous montrait aux collègues un. Je suis certain qu'il n'y a pas tous les historiens qui utilisent de gros bases de données statistiques, des outils d'exploitation. Donc, vous avez sans doute affaire à des collègues qui n'ont jamais vraiment vu les analyses factorielles. Qu'est-ce que vous diriez que ça vous apporte? Est-ce que vous avez convaincu vos collègues de l'apport de ce travail de corpus pour l'histoire? Ils avons aussi pour les autres disciplines.
Non, mais ça, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que, moi, ce que je vois, chez les médiévistes, ou même les gens d'histoire ancienne, ils ne veulent pas entendre parler. On a beau leur donner, sans graphique, sans rien, on leur donne une démonstration, on leur dit, voyez, regardez, il y a ce texte, il y a ceci, ça. Le texte, normalement, pour une lecture standard d'un historien courant, ça doit fonctionner. Ils voient que ça fonctionne. Mais ça leur casse les pieds d'être obligé d'admettre que j'ai trouvé quelque chose avec des méthodes auxquelles ils ne comprennent rien. Donc ils font ceux qui n'ont rien vu. Donc à la limite, si, quand ils sont comme ça, ils disent « Ah oui, c'est bien ton truc », puis personne n'en tient le moindre compte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça n'évolue pas très vite. Donc ça veut dire que pour continuer, il faut du tenue, c'est savoir qu'on avance dans le désert, mais que c'est quand même, faut être sûr qu'on a raison dans ce cas-là. Hein, c'est et puis si vous avez 5 ou 6 personnes à côté de vous, 5 ou 6 étudiants qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites, et bien c'est parfait, c'est bon, on continue. Vous inquiétez pas de ce que pensent les autres, les membres de l'Institut, ou de, aucun espoir, hein, c'est foutu. Donc il faut réfléchir si vous êtes content de votre résultat. Si vous avez l'impression d'avoir vraiment trouvé quelque chose qui vous paraît solide, vous avez su dans tous les sens, ça résiste, c'est bon. Là, j'ai trouvé une inflexion et je peux mettre cette inflexion dans le vocabulaire en rapport avec l'état d'inflexion sociale. Là, vous avez gagné, vous pouvez gagner, vous avez le bon. Moi, ça me donne le moral pour 3 mois, ça. Et même mes collègues, s'ils veulent, moi, de toute façon, je distribue. Ceux qui veulent prendre, au contraire, et ceux qui demandent des conseils, je leur donne. Les autres. Mettez vos textes sur HAL, distribuez, 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 il en reste quelque chose. C'est-à-dire que vous allez avoir un étudiant néo-zélandais ou un suédois qui va subitement vous écrire, ah, mais votre truc, tout ça, que... bon. Il faut espérer, si je prends le principe de l'open access, c'est vraiment que vous gagnez à terme. Partez du principe que si vous êtes dans l'open access, vous êtes gagnant par rapport à ceux qui sont enfermés. C'est sûr. Sauf, pareil, fin de l'humanité. Hein. Jugement dernier qui arrive demain matin, peut-être, ça arrive. Sinon, vous êtes gagnant. Et même si, évidemment, vous allez me dire, au point où vous en êtes de votre carrière, vous avez besoin de tampons, de ci, de ça, de monter en hiérarchie. Vous allez me dire, moi, je suis bien cool, parce qu'au fond, je m'en fous de tout ça. Mais, persister. Mon seul conseil, c'est persister, résister. De toute façon, c'est le conseil de Marc Bloch. Hein.
Un jour, j'étais dans un colloque de lettrés, et les lettrés ne sont pas très familiers de ce genre d'outils. Et à un moment, je présente ce que j'ai fait avec mon corpus de 2 millions de mots, et je vois une jeune fille devant qui commence à blêmir. On discute à la pause, elle me dit : vous avez mis combien de temps ? Je dis : pour un roman, à peu près une heure à numériser, 3-4 jours pour bien nettoyer. Et en fait, elle était à la troisième ou quatrième relecture des 1500 pages de toutes les versions du roman qu'elle étudiait pour essayer de retrouver la suite de chevelure noire de je ne sais plus quoi. Et là, j'ai dû lui pourrir son année et pas ça, en 10 secondes et pas seulement sa journée, mais elle a vraiment blémi et je crois qu'elle a complètement essayé, elle a oublié. Je vais dire envoyez-moi un mail, je vous montrerai comment faire, comment télécharger un logiciel qui va vous permettre de faire ça en 0,16 secondes. Après une bonne période de numérisation, elle ne l'a jamais fait. Je crois qu'elle a préféré oublier sa rencontre. Enfin, je crois que ça illustre un peu ce que j'ai vu avec les lettrés parfois. Pas toujours, heureusement, hein, mais parfois. Mais...
Enfin, voilà. Oui, Luki, mais ça, on le sait depuis voilà, que ça permet des relevés systématiques, exhaustifs, contrôlés, tout ce... Voilà, et ça, c'est déjà tellement...
Il y a beaucoup d'autres choses.
Mais surtout... Moi, la question principale, c'est que ces outils interrogent vraiment nos outils conceptuels partout. Ça met vraiment à mal la conception d'une notion comme le texte ou des catégories grammaticales. Moi, ce que je retenais essentiellement de vos explorations sur la métrosyntaxe, c'est une profonde interrogation qui était déjà présente hein, sur la pertinence de parler d'adverbe, la pertinence de vous poser sur des catégories comme le subjonctif, etc. Au-delà des tendances lourdes, concrètement, on se rend compte qu'on ne peut pas expliquer, bah, par exemple, le suremploi du subjonctif chez Barès par rapport à Flaubert, uniquement sur la base du « le monde du virtuel s'oppose au monde des faits présentés comme réel ». Il y a des vraies interrogations là-dessus, et c'est vraiment, à mon sens, un apport d'une analyse assistée par informatique à l'ensemble de dans les questions que ça pose. Dans la question, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un texte est un texte ? Ça, la numérisation toute seule le pose. Où s'arrêtent les unités du texte ? Où commence le fil du texte ? Qu'est-ce qui fait qu'un texte est cohérent ? Toutes ces choses-là. Et aussi à la question de ce qu'on fait quand on interprète un texte. En l'occurrence, dans ce type d'analyse, on a tendance à être sensible au vertige de la fréquence. C'est une fréquence ou un écart considérable devrait faire sens. Et à l'inverse, il y a des impacts qui font totalement sens dans nos pratiques. Donc la question qui me semble vraiment déterminante maintenant, c'est pas l'outil en tant que tel, mais véritablement l'outil qu'est le corpus. Comment on va configurer nos corpus ? Je pense que là, il y a un véritable tournant qui a été engagé, notamment par Damon Maillard avec ses corpus réflexifs. Il y a d'autres personnes hein, qui sont sur ces points. Et dans la relation qu'on a au texte et au contexte, ça me semble, et après au discours, ça me semble véritablement le sujet à traiter, à théoriser, surtout à formaliser maintenant.
Bon, j'ai un peu l'impression peut-être qu'en linguistique, on est plus. C'est un domaine qui est vraiment très ouvert au corpus. Je connais des linguistes qui travaillent sur corpus, mais ils ne sont pas très dans le domaine.
Même les linguistes introspectifs convoquent une sorte de corpus dont on pourrait se risquer à cette schématisation-là. Je me ferai ta question de en rentrant, mais je pense qu'on
ce cas de figure-là.
Non, c'est ça, t'as un ancien. Non, j'ai réagi, il y avait un ancien prof, un prof de syntaxe qui. Oui, ils sont maintenant ils se sont obligés d'utiliser un corpus, même s'ils ne maîtrisent pas les outils. Ils me demandent comment vous feriez si vous avez étudié ça. Je demande à l'étudiant de recherche de le faire pour moi. Mais c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même qu'il est essentiel de se baser sur le corpus.
Oui, il y a la question d'ailleurs, énoncé à tester ou non. En l'occurrence, on.
Moi, j'ai trouvé ce matin, j'ai appris quelque chose, parce que le rejet, ça m'a toujours fait ricaner, mais ce matin, subitement, j'ai vu que ça pouvait avoir du sens. Il faut reconnaître je ne doutais pas que ça pouvait, d'abord, que ça pouvait faire voir l'évolution des proportions, la longueur des phrases par rapport à la longueur de l'air. Ça m'était jamais venu à l'idée, je n'avais jamais rien vu là-dessus. Donc, je me suis instruit. Maintenant, la question, évidemment, c'est que, bon, ce rejet, qui jusqu'à présent ne m'inspirait pas beaucoup, maintenant, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, on est au milieu du guet avec ça. Hein. Le rejet, en soi, bon, on a une indication formelle, importante, qui a l'air intéressante, qui a l'air d'avoir du sens, puisque ça évolue de façon comme ci, comme ça, enfin, ça évolue pas n'importe comment. Donc, il y a bien un phénomène derrière. Maintenant, je n'ai pas encore l'explication. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien signifier du point de vue de la pratique de la langue et de la pratique de l'écriture aussi pourquoi est-ce, bon, c'est toute la question qui date d'il y avait le fort longtemps. Pourquoi l'ancien français, l'ancien Lomique, l'ordoche, tout ça, commence par écrire des vers pendant très longtemps avant de se mettre à la prose. Bon, Lesgaine et compagnie, il discutait beaucoup avec lui, il n'en sait rien. Le biais, là, enfin, le façon d'attaquer le problème là, me paraît quand même, enfin, je veux dire, pour moi c'est un peu renversant, quoi. Ça modifie ma façon de voir le problème de la formalisation grammaticale. Je veux dire, il me semble qu'il y a quelque chose. Maintenant quoi, faut voir, hein, parce que le projet en soi, encore une fois, on va mourir le matin. Mais si on peut montrer que c'est un élément qui ressort, d'un processus général de transformation du rapport à l'écrit ou je ne sais pas quoi. Hein, ou par exemple le problème de savoir si c'était toujours avec l'accompagnement musical, tous ces romans séraux. Voilà. Et donc le fameux rythme, le décasyllabe, on m'en a fasciné pendant les études. C'est vrai que ça ressort maintenant sous une toute autre forme. Et subitement, ça prend un sens. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, pour un vieux philologue, ça change un peu le paysage. Et peut-être quand même bien dans le bon sens. Donc, merci.
On peut très bien discuter après le tableau, on me semble. Ouais. Y a-t-il
de quelque chose de fixe, un palier fixe à partir duquel elle peut revenir et repartir, etc. Ou partir sur les fréquences. Avec deux textes numérisés.
Là, il y a tout un domaine qui est très développé, hein, c'est tout le domaine de l'alimentaire, auquel, d'une part, c'est un domaine dans lequel les logiciels sont encore très au point, au moins pour l'alignement de la phrase, pour l'alignement de l'animo, et puis, y compris pour ce qui s'appelle des corpus comparables, c'est-à-dire des corpus qui sont sur un même domaine et qui peuvent être utilisés en même temps, et il y a des gens dont, en gros, le corps de métier, c'est de faire du travail sur des corpus alignés. À la fois pour, par exemple, pour des études, disons, ça revient en gros à des études lexicales, des études de terminologie, des études de sémantique, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très stabilisé. Et puis des études de sémantique plus, sémantique de distance entre texte, entre notions, etc. Donc, par exemple, je pense en cherchant ce que fait Zagenbaum ou l'IMSI, c'est un bon point d'entrée pour le domaine. Zagenbaum, c'est SWI.
Il y a encore un type de corpus, alors forcément, c'est la Bible, la Vulgate en latin, parce que moi j'utilise surtout la Vulgate, toutes les citations bibliques, il n'y a pas de texte médiéval, mais il n'y a pas de citation biblique, hein. Donc il vous faut une Vulgate dans un coin, mais vous avez sur Internet une profusion de traductions. Depuis les traductions du 16e, 17e siècle, traductions 19e, en français, en anglais, en arabe. Puis, par exemple, en français, ce qui est transcendant, c'est que les deux trades, la première française, enfin celle française, est protestante. Donc, un exercice qui, alors, pour le coup, fait grincer les dents. alors, on affiche la Vulgate, des gens qui savent le latin, donc ils ont une idée de ce que ça peut vouloir dire. Puis, on regarde à côté le texte du. Le texte protestant et le texte français, et le texte catholique. Et on voit que les traductions fichent le camp, et ensuite on cherche un mot latin. Par exemple, moi j'ai fait le test sur un mot latin, mensura, la mesure, parce que je fais un travail sur là-dessus. Toutes les occurrences de mensura dans la Vulgate, comment c'est traduit? Eh bien, figurez-vous que dans au moins dans deux tiers, dans la moitié des cas, c'est traduit par mesure. Dans la moitié, c'est pas traduit. Soit c'est pas traduit du tout, soit c'est traduit par un autre mot, vous ne pouvez pas vous douter que ça vient de mensura. Et les protestants et les catholiques ne font pas la même chose. Ça, c'est simplement pour montrer que les traductions sont loufoques. Enfin, on ne peut pas se fier à la traduction. Parce qu'en réalité, la question qui moi me préoccupait, c'était de savoir qu'est-ce que veut dire mensura dans la Vulgate. Ça n'a pas de soi, ça justement, c'est une chose qui m'était évidente, c'est que ça ne voulait pas dire mesure. De fait, ça ne veut pas dire mesure. Mais ce texte, je crois que je l'ai mis sur, enfin, il doit être disponible sur Internet. Et la question accessoire, mais bon, tant pis, je veux dire, c'est montrer que les gens qui ont traduit la Vulgate en français ou en français à la fin du 19e siècle, ben, ils ont fait ça au petit bonheur, selon le sens, comme ça, parce qu'elle l'arrangeait, puis ils pensaient que le bon peuple, ben, il valait mieux lui dire ça, parce que c'est n'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout. Puis si vous prenez la Bible de Jérusalem, vous allez encore avoir autre chose, enfin bon. Donc ça, si vous voulez, pour les corpus multilingues, ça c'est vraiment un terrain d'exercice facile, les textes sont tous sur Internet, ils sont bien catalogués, bien balisés, tout ça, et verset par verset, on ne peut pas vous gourer, enfin bon, ça c'est amusant comme tout. Hein. Puis alors si vous prenez le grec, et par hasard, vous savez du grec, il y a bien des agrégés de lettres qui traînent ici, là, non un minimum de grec. Alors ça, c'est encore plus drôle. Parce que si vous alignez la Septante avec la Vulgate, vous allez voir que c'est n'importe quoi. Et si vous prenez l'Aristote latin, l'Aristote grec et l'Aristote latin du XIIIe siècle, alors ça, c'est franchement loufoque. Et donc, quand on parle d'aristotélisme au XIIIe siècle, je dis de quoi vous parlez? Du texte grec ou du texte latin? Le texte grec, il ne comprenait pas. Il y avait trois personnes pour traduire. Ils ont mis un texte latin qui a été commenté. Thomas d'Aquin commente les distinctions qui sont dans le texte d'Aristote, sauf que quand on va voir le texte d'Aristote en grec, c'est le même mot. La distinction, c'est celle qui a été introduite par le traducteur. Donc en fait, Thomas d'Aquin croit commenter les distinctions d'Aristote, alors qu'en réalité, il commente les distinctions de Guillaume de Meurbeck, le traducteur. Voilà. Donc si vous voulez, le plurilingue, c'est assez rigolo. Hein. C'est un sujet. On peut rigoler.
Difficile à mesurer.
pas d'autres questions, c'est maintenant, c'est le moment de vous. Bon, sinon, je vous invite donc à remercier nos intervenants pour